Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, une bonne journée. Hein? On commence avec la mentalisation, ensuite, ça sera le couple et ensuite, ça sera le groupe. Toujours en lien avec la PGRO, psychothérapie du lien. On voudrait savoir s'il y a des gens qui doivent partir tôt à cause de trains, bus, etc. cet après-midi. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui doivent partir avant? Bon, on va juste vous demander... cet après-midi, de vous installer plus vers l'arrière, si c'est possible, pour pas que ça à chaque fois qu'on dérange et qu'on doive partir. Et ça nous aide aussi pour la dernière conférence, à savoir est-ce que le monde parte parce que je suis vraiment... ou tout simplement parce qu'ils doivent partir pour un train. Donc, on débute. Je vous laisse avec Alain Mercier et Claire Bayard pour la mentalisation. Bonne journée, tout le monde.
Bien, bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, notre présentation va être un peu sur... un format différent de celle que vous avez déjà vue. Bien, est-ce que le micro fonctionne? Derrière, vous entendez? Bon. Est-ce que ça fonctionne? Bon, voilà.
Et le mien, il fonctionne?
Ça me met de mauvaise humeur en partant. Puis quand je suis de mauvaise humeur, je mentalise pas bien. Bon, ceci dit, je m'excuse pour le départ manqué. Vous allez voir, notre présentation est un peu sur un format différent de celle que vous avez déjà vue. Hein. Claire et moi, on a décidé de la faire à quatre mains, donc c'est-à-dire de la construire ensemble et de travailler ensemble à réfléchir à la mentalisation. Donc, c'est de cette manière-là dont on va procéder aussi. Donc, on va se lancer la balle pendant la présentation. Ceci dit, pour continuer, je vais vous présenter Claire Payard, qui est une personne que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est une très agréable découverte. Claire est PGRiste depuis 2004, gestaltiste depuis 1990. Elle fait partie de l'équipe pédagogique de Changer à Lille. Elle est médecin. Elle a fait différentes formations en approche psychocorporelle et elle s'intéresse particulièrement aux neurosciences et à la thérapie des traumas. C'est aussi une personne qui a pratiqué l'alpinisme à un haut niveau, une activité dont elle est très fière. Et pour moi, ça a été une découverte de rencontrer une personne discrète, mais avec un pouvoir de réflexion assez vaste. Et pour moi, ça a été une très grande découverte.
Bonjour. Un démarrage un petit peu difficile, puisque c'est la première fois que je prends la parole dans un grand, grand public comme ça. D'habitude, j'ai affaire à 30 personnes. Que je connais quand même plus ou moins, mais c'est pas pareil, voilà. Comme ça. Alors, Alain est psychologue, il travaille en milieu psychiatrique depuis plus de 25 ans. Il est superviseur didacticien au CIG. Il est chargé de cours à l'université de Sherbrooke. Il y a plusieurs années, il a mis en place un programme de traitement intégré pour les personnes présentant un trouble de la personnalité, mais plus spécialement pour les personnes, les personnalités limites. En fait, il constatait que souvent, les personnalités limites avaient, on leur donnait un traitement à court terme. Et puis, ils sortaient de l'hôpital, des instituts, et puis finalement, ils re-rentraient. Donc, il appelle ça la porte tournante. C'est des personnes qui posaient beaucoup de problèmes au monde de la santé mentale. Ce qui fait que lui a approfondi la réflexion et il s'est dit qu'il pouvait aborder ces personnes-là par le biais du traitement au niveau des troubles de la personnalité. Alors, il travaillait à Rivière-du-Loup, mais ça n'a pas pu se faire. Et aujourd'hui, il travaille actuellement à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal avec le docteur Johan Cyr. Ils mettent sur pied une clinique PGRiste dans le traitement des comorbidités, des troubles anxieux et de l'humeur avec un trouble de la personnalité. Voilà. Alors, je ne connaissais pas du tout Alain. On a pas mal échangé par mail, par téléphone. Et j'ai eu le plaisir de le rencontrer il y a juste une semaine, de visio. Et lui aussi, c'est une personnalité discrète. Et voilà. Et donc, on a fait connaissance. Et puis, voilà, le feeling passe. Voilà, j'espère que ça vous plaira.
Je vais simplement faire une petite correction à la présentation de Claire. C'est que le projet de Rivière-du-Loup marche. Il marche encore. D'ailleurs, il y a des gens dans la salle qui sont de Rivière-du-Loup et qui ont contribué à ce projet-là. Donc, c'est un projet assez novateur d'organisation de services par différentes institutions qui s'unissent autour d'une même clientèle. Donc, c'est un projet qui fonctionne encore. Vous allez voir Véronique Mellon qui est ici, là, qui est une fière représentante de ce travail d'équipe-là qui a été fait. Michel Marois aussi, qui dans sa région à Rimouski a contribué à ce projet-là. Et José Tremblay ici, qui est psychologue, qui est aussi ma conjointe, qui a participé à ce projet-là. Donc, le monter comment? Je ne saurais pas vous dire. Je peux essayer de lever le lutrin. Je ne sais pas si ça va monter le son. Donc, il semblait fonctionner hier, puis il ne fonctionne pas. Ça doit être un complot. C'est un réglage, hein? Oui, OK. Ils vont aller voir le technicien. Donc, vous allez me voir un peu bossu pour quelques temps. Oui, mais il faut que je parle comme ça. Fait que c'est pas évident.
Hier, il marchait comme ça.
OK, on va y aller avec le plan de la présentation. Donc, ce dont on va vous parler, c'est, d'abord introduction et définition. Ce qu'ils en disent, je parle de Bateman, Fonagy et Luiten, donc les derniers écrits sur la mentalisation. L'opérationnalisation, les postulats centraux, les modes antérieurs à la mentalisation. On va parler du dialogue, thérapie du lien et mentalisation. On va avoir une illustration clinique. Dans lequel on va faire ressortir les polarités de la mentalisation. On va regarder le spectre d'intervention en utilisant l'approche basée sur la mentalisation, puis on va passer aux conclusions. Donc, c'est un programme assez chargé, puis on va essayer de le faire dans le temps requis pour qu'on puisse avoir un échange avec vous aussi. Donc, mentaliser. Alors ça, c'est une phrase qui est tirée d'un chercheur qui s'appelle Baron Cohen. Ce chercheur-là est un des grands chercheurs sur l'autisme. Imaginez ce que serait votre monde si vous étiez conscient des choses physiques, mais aveugle de l'existence des choses mentales. Je veux dire, bien sûr, aveugle aux choses telles les pensées, désirs et intentions, lesquelles, pour la plupart d'entre nous, sont sous-jacentes au comportement. Hein? Et lui utilise ça pour parler de l'aveuglement à l'esprit, hein, qui serait une des caractéristiques fortes des gens qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Évidemment, l'attachement. Hein? Quand on parle de mentalisation, on fait référence à l'attachement. Bon, ça va aller mieux. Donc, on fait référence à l'attachement quand on parle de mentalisation. C'est une théorie que Fonagy a développé avec des collègues à partir des études de Bowlby. On pourrait même dire que Fonagy, c'est un de ceux qui a raccommodé le lien entre les théories de l'attachement et la psychanalyse. Hein, parce que Bowlby, parce qu'il accordait beaucoup d'attention à la réalité, à la relation réelle entre la maman et son bébé, bien, il a été presque excommunié du monde psychanalytique. Donc, on va souvent penser, hein, puis on va construire la mentalisation comme une thérapie à deux, une relation à deux. Hein, c'est quelque chose de relationnel. Souvent, le mot mentalisation, on l'entend galvauder de toutes sortes de façons. Hein, mais là, on va essayer de le ramener à ce que les auteurs nous en disent.
John Allen donne comme définition « Mentaliser consiste à percevoir et interpréter d'une manière imaginative les comportements comme étant liés à des états mentaux intentionnels. »
Donc ça, c'est la définition officielle de Fonagy de la mentalisation.
Non, d'Allen. Oui. C'est la définition de John Allen.
John Allen, mais c'est un collaborateur de Fonagy, donc qui a travaillé proche. Qu'est-ce que c'est la mentalisation? On a beau avoir la définition officielle. Hein? Est-ce que c'est une opération cognitive? Est-ce que c'est l'empathie? C'est souvent des questions qu'on entend poser. Est-ce que c'est comme le mindfulness? La conscience des affects? Une manière de comprendre les comportements psychologiques? Si vous auriez à donner une réponse, laquelle vous choisiriez?
Tout ça.
Tout ça? Bon, bien, pas pire. C'est bon. On n'a pas de prix, par exemple. Non. L'empathie en fait partie. Psychological mindedness. Donc, être intéressé aux états psychologiques. Il a tendance à expliquer les comportements d'autrui sur la base de principes psychologiques comme la pensée, les sentiments. Mindfulness, préservation de la prise de conscience de la réalité présente. Affect consciousness, capacité de l'individu à percevoir, réfléchir et exprimer les expériences affectives. Et voilà, la mentalisation au carrefour de tout ça. Hein? Avec une portion liée au soi, une portion liée à l'autre, et puis des dimensions implicites et explicites. Donc, la mentalisation, c'est l'intersection de ces choses-là. Et ça, c'est la définition... Ah, excusez-moi. Ça change ici, mais ça ne change pas là. Voilà la définition que Claire nous a donnée tout à l'heure de la mentalisation. Un mot compliqué, hein? OP, rationalisation, je ne suis pas toujours certain de pouvoir le dire. Donc, c'est conçu au départ pour le traitement du trouble de personnalité limite. Il faut savoir que Fonagy travaille en Angleterre, dans un système de santé universel, de soins de santé universel, dans lequel les approches qui sont financées doivent avoir des données probantes. Et obtenir des données probantes nécessite d'avoir des résultats de recherche. Et l'opérationnalisation des concepts va aider à préciser des variables. Et ces variables-là vont devenir mesurables. Et donc, doutez pas que Fonagy est un psychanalyste. Mais en même temps, quand on travaille dans un milieu institutionnel, c'est très rare de pouvoir ramasser une masse critique de personnes qui sont de la même approche. Donc, il doit constituer des équipes avec des infirmiers, des psychologues, des travailleurs sociaux. Et il propose un concept comme la mentalisation pour les faire travailler ensemble autour d'un client. De ce fait, il crée ce qu'on appelle, ce que lui appelle des « one team approach », l'approche par une équipe. Et l'équipe va adopter les credos mentalisants. Et l'équipe va se former en 4 jours. Okay? Donc, ce n'est pas une formation extensive. Devenir psychanalyste, c'est une formation assez extensive. Devenir PGRiste, c'est assez extensif. Devenir thérapeute mentaliseur, mentalisant, 4 jours. En même temps, beaucoup de supervision, beaucoup de travail d'équipe, beaucoup de dynamique d'équipe autour du processus de mentalisation. Donc, il s'assure que l'équipe devient une équipe mentalisante. Et il obtient des résultats assez intéressants avec les personnalités limites. Fodeghi, c'est un de ceux qui a des follow-up sur la plus longue durée. Il y a des follow-up maintenant jusqu'à 12 ans de ses premières cohortes de borderline. Et le patron qu'il trouve au niveau de l'amélioration de la capacité à mentaliser, c'est vraiment un patron dans lequel il y a des gains assez importants au début et il y a une courbe de maintien qui continue à s'élever dans le temps. Légèrement, hein, mais il semble que quand les gens, après avoir travaillé dans son programme, un programme de 18 mois en hôpital de jour, par exemple, pour les cas les plus lourds, 18 mois, 5 jours par semaine, c'est une thérapie assez intensive. OK? En même temps, il y a une clientèle très difficile. Si vous posez la question à Fodeghi, comment vous faites pour sélectionner vos clients, il va vous répondre, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de les sélectionner, je les sélectionne pas. La loi m'oblige à traiter tout le monde. Et il a même développé des approches dans lesquelles il va offrir des traitements basés sur la mentalisation dans les prisons, par exemple. Et, bon, évidemment, ces travaux ont fait des petits, puis il y a plusieurs applications différentes des approches sur la mentalisation. Il y a des travaux sur les dyades mère-enfant, des travaux au niveau de la psychologie scolaire, au niveau de l'intervention dans les écoles, au niveau de l'anorexie, de la dépression, de la famille, des adolescents violents, et j'en passe, il y en a plusieurs. Voilà ce qu'ils en disent. Donc, ils invitent les cliniciens à considérer l'action de mentaliser comme un fondement des traitements psychothérapeutiques, argumentant que cette apparente audace était justifiée parce que l'acte de mentaliser adresse la capacité humaine fondamentale d'appréhender son propre esprit ainsi que l'esprit des autres comme esprit. Ils disent aussi, et ça c'est intéressant parce qu'ils en font comme un facteur non spécifique à l'efficacité dans les psychothérapies, ils disent l'ensemble des thérapeutes utilisant différentes modalités thérapeutiques emploient nécessairement cette capacité à mentaliser sans égard à l'utilisation d'une conceptualisation explicite dans leur théorie. Dans leur théorie à propos de ce qu'ils font, et les bons résultats qu'ils obtiennent doivent être conceptualisés en termes d'amélioration de l'habileté à mentaliser. Maintenant, ils ont gardé, parce que c'est quand même une théorisation qui évolue depuis plus de 20 ans, ils ont gardé quelques postulats centraux qui sont, pour eux, ce qui représente l'état de la question autour de la mentalisation. Premier postulat, mentaliser n'est pas uniquement un héritage constitutionnel, mais surtout un accomplissement développemental. Et s'ils disent ça, c'est parce qu'ils ont des données suffisante pour le dire de cette manière-là, puis quand ils le disent, ils ont l'air assez sûrs. Donc, c'est l'acquisition de cette capacité-là, c'est en lien avec la qualité des relations d'attachement. La qualité du reflet des affects influence le développement de la capacité à mentaliser. Les perturbations et les traumas dans l'attachement précoce ont le potentiel de réduire la capacité de mentaliser et de nuire à la construction d'une structure cohérente du self. La capacité de mentaliser est un trait, mais aussi un état.
C'est fortement influencé par le contexte interpersonnel. Quand on dit un trait, c'est une tendance plus générale. Et quand on parle de contexte, on parle dans des situations particulières. Et ça, tout à l'heure, on pourra nourrir ça avec des exemples. Mentaliser permet d'intégrer les formes de la subjectivité qui précèdent la pleine capacité à mentaliser. L'échec à mentaliser, en combinaison avec une profonde désorganisation de la structure du self, peut fournir une compréhension significative des caractéristiques centrales du fonctionnement limite de la personnalité. Vous voyez bien l'expression qui est utilisée, un fonctionnement limite, même si leur programme de traitement a été conçu pour le trouble de personnalité limite, Fonagy exprime explicitement qu'il réfère beaucoup plus à ce que Kernberg en dit en termes d'organisation clinique qu'à ce que le DSM en dit. Fonctionnement limite, c'est la perte de la capacité de mentaliser dans le contexte de relations intenses et la réémergence dans ces moments de modes de pensée à propos de l'expérience subjective qui sont antérieurs à l'acquisition de la mentalisation. C'est aussi la constante pression pour l'extériorisation des états internes, qui fait référence à l'identification projective. Bateman et Fonagy, BEF, considèrent comme l'extériorisation d'états du self douloureux, intolérables et désorganisés. Le self étranger autodestructeur, l'alien self, qui est quand même une image assez parlante pour ceux qui ont été devant un borderline qui les déteste. Eliane est là. Donc, je passe la parole à Claire.
Alors, je vais vous parler de la qualité du reflet. Mais la qualité du reflet, elle doit être marquée, il doit être marqué et contingent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un reflet marqué? Un reflet marqué, c'est un reflet qui est souligné avec une certaine exagération. Un peu comme la maman qui dit « t'as l'air en colère, bon, on va voir ce qui se passe ». Vous voyez, il y a deux façons. Elle souligne, elle reflète le miroir, le bébé est en colère, elle fronce les sourcils. Et puis, elle dit, bon, on va voir ce qui se passe. Et là, l'enfant peut distinguer la différence entre le reflet qu'il voit. Si le miroir est exact, il ne va pas comprendre que la maman reflète son état. Par contre, quand elle le souligne, et puis après, il voit bien qu'il y a une différence, voilà, il commence à construire ses représentations de ces états-là, de ces différents états. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que se construit le monde interne de l'enfant. Et c'est comme ça qu'apparaît l'intersubjectivité. Face à la détresse de l'enfant, si la mère ne fait que répondre par des actes, en concrétisant, sans avoir métabolisé au préalable l'affect de son enfant, ou encore si elle panique, elle renvoie un simple écho sans modulation, comme dans le monde de l'équivalence psychique. On verra ça après. Un reflet non marqué renforce un fonctionnement en équivalence psychique. Il ne permet pas à l'enfant d'identifier l'affect comme lui appartenant. Il prédispose à vivre les émotions à travers les autres. Il est à la source des pathologies de la lignée borderline. Le reflet non marqué laisse l'enfant envahi par l'émotion. L'émotion devient contagieuse et favorise l'escalade. L'enfant n'est pas contenu. Maintenant, il faut aussi que le reflet soit contingent. Un reflet contingent est un reflet précis et réactif au moment même. Si la mère évite régulièrement de refléter l'enfant, c'est le cas d'une mère dissociée ou d'une mère dépressive, elle renvoie un état sans lien avec la réalité interne de l'enfant, sans lien avec ses sentiments, les intentions authentiques de l'enfant. Or, ça va créer une différence entre ce qu'il ressent physiologiquement dans son corps, et il ne va pas pouvoir faire régulièrement de coïncidence entre ce que la maman lui reflète, si elle change ou si elle est absente, enfin, absente psychiquement. L'enfant ne trouve pas de cohérence entre les stimulations internes physiologiques et les reflets faciaux. La mère peut ignorer la détresse ou encore la traduire comme étant de la fatigue ou une maladie. L'enfant ne se perçoit pas comme un être intentionnel à ce moment-là. Il intériorise une représentation de l'autre dans son self. On parlait d'alien self. Un reflet non contingent conduit à l'intériorisation de l'état mental du parent et crée une expérience d'un étranger dans le self. Affect et pensée sont expérimentés comme des parties du self, tout en ne semblant pas lui appartenir. Le reflet non contingent renforce le mode prétendu et contribue à la genèse du faux self. Il favorise la lignée des difficultés narcissiques. Dans l'attachement désorganisé, l'enfant est forcé de regarder, non pour obtenir une représentation de son état mental dans l'esprit de l'homme, mais parce que l'état mental imprévisible du parent produit trop d'anxiété. L'enfant devient hyper vigilant face à un parent effrayé, effrayant ou malveillant. Il n'obtient pas de reflet fiable et cela crée une présence étrangère à l'intérieur. Cette représentation alien self est intolérable. Les comportements d'attachement seront utilisés pour extérioriser cette partie du self sur la mère. On connaît bien ça dans l'IP. Hein. Voilà. Et l'IP, c'est la première communication interpersonnelle, la première communication interactive entre le parent et l'enfant. L'enfant parvient finalement à une représentation de soi cohérente par le biais de comportements coercitifs et contrôlants, utilisés pour réduire ses expériences d'état émotionnel d'attaque de l'intérieur, insupportable et douloureux. L'extériorisation devient une affaire de vie ou de mort, mais crée paradoxalement une dépendance envers la mère. L'enfant qui a reçu des images non reconnaissables, mais modifiées de ses états, aura du mal à différencier la réalité psychique de la réalité physique. Si l'incapacité du parent est forte, le développement même du soi est compromis. L'enfant utilisera des affects comme instrument plutôt que comme signaux dans la communication avec les autres.
Un exemple, c'est lequel le reflet marqué de la tristesse, selon vous? Oui, c'est à droite. C'est réellement Peter Fonagy aussi. Hein? J'ai cherché un reflet non contingent avec la photo de Gilles. Malheureusement, j'en ai pas trouvé. Le reflet contingent de la tristesse? Pas vraiment, hein? Non. Non, non. Et c'est dans ces cas-là qu'il y a une intériorisation de quelque chose qui est non-soi. Alors que le reflet contingent, mais il y a une reconnaissance de soi à travers le travail que l'autre a fait de nous, l'effort que l'autre a fait pour nous comprendre. Hein, donc, il va passer à l'intérieur de nous, il va nous aider à constituer notre self. Le reflet non-contingent, bien, va venir habiter notre self, mais il fera pas partie de ce self-là. Claire va continuer avec les modes de réalité psychique antérieurs à la mentalisation.
La position téléologique. Autour de 9 mois, l'enfant perçoit que son action change quelque chose au niveau du corps, des corps, avec sa mère. Il peut agir pour atteindre un but physique. Son pouvoir d'action est perçu exclusivement en termes d'action physique. Les états mentaux ne sont pas considérés. L'enfant ne croit que ce qu'il voit. L'intention, c'est ce qu'il fait lui et ce que l'autre fait. Chez l'adulte, pour connaître les intentions de l'autre, comprendre et prédire les comportements, ces patients s'appuient uniquement sur la réalité physique, les gestes, les actes posés, ce qu'ils observent concrètement. Ils ne peuvent accepter rien d'autre. Les idées et même les mots signifient peu pour eux. Seules les actions ont un impact physique, peuvent modifier les états d'âme, leur état d'âme et celui de l'autre. Le raisonnement est simple et le patient s'attend donc à ce que les autres soient aussi logiques que lui, qu'ils se comportent d'une manière rationnelle. C'est la pensée opératoire de Pierre Marty. Le tableau clinique est celui de l'alexithymie. A, c'est absence de lexique pour les humeurs. Alexithymie. Par exemple, un homme se sépare d'une femme récemment rencontrée parce qu'à l'occasion d'une promenade, elle ne s'est pas retournée pour voir si je suivais, me dit-il. Il lui rend dans un sac plastique tout ce qui lui appartient. En fait, juste un stylo et un crayon à moitié cassé. Il me l'écrit. Il concrétise ainsi la rupture. Il en a besoin. Ou alors, un autre exemple, le père d'une cliente affirmait que lorsqu'on s'aime, on doit faire la moitié du chemin. Et c'est concrètement ce qu'elle a fait pendant longtemps avec un ami. Chacun faisait la moitié du voyage en train, en voiture ou à pied. Le patient exige des autres des actions de démonstration. Les actions parlent plus que les mots. Seules les réponses physiques permettent de résoudre la détresse, les doutes. D'où les automutilations, les gestes suicidaires. Les traumatismes sont par définition téléologiques. Je vais peut-être passer par au-dessus de ça, peut-être qu'on y reviendra après. Le mode de fonctionnement en équivalence psychique. Les pensées ne sont pas seulement des pensées. Ça, c'est quand l'enfant commence à dépasser le stade téléologique et commence à percevoir les états internes. Alors, les pensées ne sont pas seulement des pensées, elles sont la réalité. La réalité mentale et la réalité externe ne sont pas distinguées et sont équivalentes. C'est un processus à double sens. Non seulement l'enfant assimile l'imaginaire à la réalité, mais les pensées et les sentiments déformés par le fantasme sont aussi projetés dans la réalité externe. Les événements, qu'ils soient mentaux ou du monde externe, sont équivalents en termes de puissance, de causalité et de conséquence. Le monde interne est parfois submergent, car pris pour la réalité externe. Vivre les pensées et les sentiments comme la réalité concrète, vivre l'expérience d'une fantaisie, tout cela peut devenir terrifiant. Dernièrement, à la télévision, nous avions une campagne de prévention de terreur d'enfants. Et là, on pouvait voir que les enfants ne perçoivent pas du tout les scènes comme nous et peuvent rester marqués. C'est une expérience similaire que nous vivons quand nous sommes subitement réveillés et que nous n'avons pas encore pris conscience que c'était qu'un rêve. C'est ça l'équivalence psychique. Ça explique aussi la puissance des reviviscences traumatiques, des flashbacks. De même, le sentiment d'être mauvais n'est pas une simple pensée, mais un ressenti intense. Je suis mauvais est une réalité concrète, vraie. D'où aussi la puissance de notre contre-transfert. Parfois, on peut se dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis nulle !» Et moi, je me dis, quand je me dis ça, je me dis « Tiens, c'est bizarre, c'est tellement intense, c'est anormalement intense. » Cette indistinction interne-externe explique la pensée magique à cet âge. J'ai désobéi à maman, c'est pour ça qu'elle est morte. Chez l'adulte, on observe des moments d'équivalence psychique dans les flashbacks, les idées paranoïdes transitoires, ou lorsque le client est submergé, il ne distingue plus son thérapeute du père de son enfance. D'autres personnes fonctionnent plus, de façon plus constante en équivalence psychique. Ils généralisent et sont convaincus de connaître les sentiments, intentions des autres. Leurs certitudes sont passionnées. Tu es toujours, tu veux jamais, tu n'es qu'un égoïste. Les différences de point de vue, les différences de perspective sont intolérables et impossibles. Puisque le monde externe a la même forme que le monde interne. Les affects demandent à être mis en acte au lieu d'être simplement ressentis. Le patient a peu d'espace mental pour prendre du recul et a tendance à agir. Le mode faire semblant. L'enfant comprend son expérience interne, que son expérience interne n'est pas le reflet de la réalité. Il distingue bien les deux, mais il conçoit son état mental comme n'ayant aucun impact sur le monde externe. Ce monde survient avec la capacité de jouer. Alors que le jeu prend tout l'espace, le réel disparaît. En faisant comme si, l'enfant tient le réel à distance et peut explorer en imagination différents états d'âme. Mais il ne peut le faire que dans un contexte de jeu, car cette démarcation entre l'interne et l'externe l'aide à gérer son anxiété. En effet, ses désirs et fantasmes commencent à se confronter au réel et provoquent des conflits. Il peut ainsi explorer et manipuler en toute sécurité les sentiments et les intentions. Il apprend à jouer et à manipuler les états mentaux, tout en les ancrant peu à peu dans la réalité. C'est seulement progressivement et grâce à la sécurité d'un adulte à proximité qui contient simultanément le faire semblant de l'enfant et ses projets sérieux que l'intégration des deux modes donne naissance à une réalité dans laquelle les sentiments et les idées sont reconnus comme internes, tout en étant liés à la réalité externe. Chez l'adulte, lors d'un épisode de dissociation, le client peut se retrouver momentanément en mode prétendu. Son expérience interne occupe tout l'espace. Il perd le contact avec le monde externe. Les mots du thérapeute sont peut-être entendus, mais n'ont pas d'impact réel. Les personnalités limites peuvent se perdre dans une autocritique sans fin, des pensées pessimistes qui ne sont ni ancrées ni modulées par la réalité. L'existence continue du psychisme n'est plus contingente à l'existence continue du physique et permet l'automutilation. Certains clients sont piégés dans le monde prétendu et nous livrent des élaborations insignifiantes et sans fin de pensées et de sentiments. Mais le soi constitutionnel est absent. Et les sentiments, les ressentis de l'instant n'accompagnent pas les pensées. Les relations, les événements sont vidés de leur profondeur émotionnelle. Ils tiennent un discours riche et complexe, mais nous ne sommes pas vraiment touchés. On appelle ça une pseudo-mentalisation. Et alors, il ne faut pas croire que la pseudo-mentalisation, c'est ça. Comment dire ? Je vais vous donner un exemple. Pendant longtemps, je tournais en rond avec un client très intelligent qui me racontait des choses très intéressantes, apparemment affecté, avec beaucoup d'affect, avec beaucoup de subtilité. Et puis, on tournait en rond. Et je n'avais pas ces notions-là. Et maintenant, je comprends qu'il était dans une pseudo-mentalisation parce que son ressenti, son discours n'était pas appuyé sur l'instant, comme nous, les gestaltistes, on y fait attention. Voilà. La pensée des autres peut aussi inquiéter. Il s'agit de la contrôler par sa propre pensée, en consacrant beaucoup d'énergie pour comprendre comment les autres se sentent et pensent. La personne a besoin, par exemple, de tout expliquer, interprète tout, ou encore, elle cherche l'insight pour l'insight. Certains auteurs parlent même d'hypermentalisation. Les élaborations sont trop riches. Voilà. Il s'agit d'une déflexion du contact. L'intégration des deux modes, qu'on a vu, prétendu et équivalence psychique, permettra de mentaliser. En effet, l'équivalence psychique est trop réelle, alors que le mode prétendu est trop irréel. Pensées et sentiments seront enfin expérimentés comme des représentations. Réalités internes et externes seront enfin distinguées et liées.
Courte récapitulation parce que le temps fuit. Donc, la proximité émotionnelle dans un thème sensible stimule le système d'attachement chez tout le monde. Lorsque ce système est stimulé, la capacité de mentaliser est menacée autant chez le thérapeute que chez le client. Grande importance de la régulation affective. La mentalisation est un construit multidimensionnel. Et ça, j'entends des polarités associées au rapport entre différents réseaux du cerveau. Ils vont référer au système d'activation double d'Arnstein, hein, qui est un système dans lequel, quand un système s'active jusqu'à un certain point, à un moment donné, il y a le déclenchement d'un autre système qui va inhiber le fonctionnement du système précédent. Thérapie du lien et mentalisation. Deux théories du champ? Point d'interrogation? 3R ou 4R? Point d'interrogation. En PGRO, la reproduction, on pourrait dire que c'est le mode par défaut. Hein, c'est celui qui s'impose d'emblée au contact de deux personnes. Régulation, qui serait le quatrième R. Reconnaissance et réparation, est-ce qu'ils ont la même fonction en PGRO qu'en mentalisation? C'est des questions qu'on va essayer de répondre dans les diapos qui viennent. Hein? Et c'est lié plus au processus de contact dans un lien d'attachement qu'au seul contenu de la pensée. Donc, si on regarde en haut les flèches, c'est ce que le développement de la pathologie en PGRO, les événements fondateurs qui vont se reproduire dans les événements contemporains. Donc, la dysrégulation affective stimule le comportement d'attachement. La dysrégulation affective désamorce la capacité de mentalisation explicite. Et ce qu'on rajoute avec les neurosciences, c'est que le cerveau adulte peut régresser au stade infantile lors de moments de stress ou de réactivation de schémas d'attachement. Implication pour le processus thérapeutique en PGRO. La reproduction, le mode par défaut. Donc, dans le lien thérapeutique, il va y avoir quelque chose qui va s'induire. Mais la reconnaissance, ce ne sera pas de reconnaître que ce qui se passe ici vient d'ailleurs. La reconnaissance va être liée au processus qui se développe ici maintenant dans le champ 1. Toujours en essayant de garder présente la capacité de mentaliser. Et pour garder présente cette capacité de mentaliser, il y a un équilibre à trouver, il y a un rythme à trouver, il y a des formes d'intervention à trouver qui vont permettre que ça puisse se faire. Hein, donc, la reconnaissance va être plus en lien avec reconnaître ce qui se passe ici maintenant, mais pas le reconnaître comme représentant autre chose. Pas maintenant, pas tout de suite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'utilisation des éléments de la relation transférentielle. Mais il va y avoir une façon particulière d'utiliser la relation transférentielle. On pourrait dire graduer avec la capacité de la personne à maintenir sa capacité réflexive. Et la réparation, dans le champ 1, ici, maintenant, ça va être de restaurer la capacité à mentaliser, dans un premier temps. Ensuite de ça, l'expérience partagée autour de cette réparation-là, elle va devenir une composante du self de la personne, ce qui va permettre des explorations subséquentes plus profondes. Mais ce n'est pas possible avec tous les troubles graves de la personnalité. Il y a des gens qui ont été tellement martyrisés par la vie que juste de repenser au passé les replonge en traumatisme. On va y aller avec un cas qu'a vécu. Valérie, 23 ans, dépression. Hospitalisée, tentative de suicide, lacération des poignets, boulimie. C'est une infirmière. Situation clinique en groupe semble dégoûtée par l'accueil du thérapeute masculin. Répond à celle du thérapeute féminin. Puis elle réagit rudement à chaque commentaire du thérapeute masculin. Comment intervenir à la lumière des concepts de régulation affective et de mentalisation? Hein, on va essayer d'avoir une réflexion par rapport à ça. Donc, si on explore l'intervention en PGRO, on pourrait se poser la question de cette manière-là, en incluant les éléments de la mentalisation. Donc, ce que le champ 1 révèle de la capacité actuelle de faire du sens? Créer un espace relationnel transitionnel? Donc, qu'elle se sente en sécurité? Ce qui se vit ici et maintenant ne représente rien d'autre. Le dialogue sert à maintenir le processus mentalisant. Champs 2 et 3 pour éclairer le processus de perception de la réalité dans le contact, soit autre. Et le champ 4, danger. Danger en lien avec la retraumatisation, l'activation du mode prétendu et toutes sortes d'affaires un peu moins agréables. Au niveau du traitement de la mentalisation, voilà ce que Fonagy dit, et il tient à cette séquence-là. Systématique. Donc, identifier le bris dans la mentalisation. Revenir au moment avant le bris.
C'est quoi le bris?
Le bris dans la mentalisation, c'est que la personne, comme par exemple, dans l'exemple que je donne, Valérie, est tout de suite dégoûtée par moi. Sur quelle base? Elle ne me connaît pas. Hein? Et là, il y a quelque chose qui note qu'elle a une difficulté à se dégager de quelque chose pour être là, ici, maintenant, avec moi. OK? Là, il y a un bris de mentalisation. Il y en a toutes sortes de formes. On est avec un client, par exemple, plutôt narcissique. Je pense à un en particulier. Je commence à être empathique avec lui. Il est touché. Et tout de suite après, il me parle de quelque chose de grandiose. Donc là, il est arrivé, il y a eu un bris à ce moment-là. Il y a des gens que le bris de mentalisation, il s'est fait à l'extérieur du bureau. Je pense à une cliente qui arrive et a dit « J'ai tout compris. » Elle est chanceuse. Moi, ça fait longtemps que j'essaye de comprendre et je n'y arrive pas. Donc, elle a tout compris. Mais là, il y a toute une histoire qui est associée à ça. Il y en a un autre qui rentre en entrevue, qui dit « C'est génétique, le trouble de personnalité limite. » Ça fait un an qu'on est ensemble. Il me semble qu'on a dit un peu plus que ça, hein, mais... Là, il y a quelque chose qui... Et là, si on prend le temps de décortiquer chacune, d'explorer pourquoi la personne nous arrive avec quelque chose comme ça, mais il y a une histoire très cohérente qui soutient cette prise de position-là de la part des patients. Bon, pour la personne qui dit c'est génétique, c'est une expérience de honte. Elle a eu une grosse tempête émotionnelle à la maison et elle est honteuse de revenir avec cette expérience-là. Celle qui a tout compris, c'est qu'elle est blessée par le geste d'un thérapeute. Donc, et là, il n'y a pas de... Dans le fond, c'est une théorie avec laquelle on essaie d'explorer le sens, hein, de découvrir le sens, de construire une herméneutique pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, le thérapeute identifie l'exploration du contexte émotionnel dans lequel le bris s'est construit. Pas le contexte cognitif, le contexte émotionnel. Le thérapeute identifie explicitement et s'approprie sa responsabilité dans le bris de mentalisation. Puis, en dernier, l'utilisation de ce qu'eux nomment les traceurs de transfert. Mais ça, c'est possible seulement tant que le processus mentalisant est maintenu. Donc, on va regarder, quand je parlais des quatre polarités dans la mentalisation, puis on va prendre le cas de Valérie. Donc, les quatre polarités, explicite, implicite. Donc, explicite, c'est contrôlé, implicite, c'est automatique. C'est en lien avec des réseaux neuronaux différents. L'activation dans le pôle automatique va réduire l'activité dans le pôle contrôlé. Donc, quand l'affect est stimulé, bon, Valérie, la réaction implicite face au thérapeute masculin va réduire sa capacité de considérer ce qui se passe pour elle dans ce contact. Donc, ça, c'est ce que la théorie de la mentalisation nous dirait. Une autre polarité, interne-externe. C'est aussi lié à différents réseaux neuronaux. Le focus sur l'interne, c'est un réseau médial fronto-pariétal. Le focus sur l'externe, c'est un réseau plus latéral. Chez les TPL, le focus sur l'interne est significativement plus difficile. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, chez les antisociales. Ils vont même utiliser des variations dans les polarités pour expliquer différents types de troubles de personnalité. Au niveau de l'externe, bien, Valérie réagit à l'externe du thérapeute sans voir l'interne. Donc, ça nous donne l'idée, est-ce qu'on va procéder de l'externe vers l'interne? Comment questionner sa réaction? Comment refléter d'une manière marquée cette situation? Valérie, elle arrive dans un groupe, hein? Donc c'est une situation de groupe. Elle arrive dans un groupe, c'est son premier groupe, il y a déjà 7 autres participantes, c'est la 8e, 2 thérapeutes, et là, elle arrive dans cet état-là. 4 polarités de la mentalisation en continu, cognitive, affective. C'est lié à différents systèmes, le système TOM, ce qui sont les mécanismes de la théorie de l'esprit, les mécanismes TESS, le système d'empathie. Chez les TPL, la synergie des deux systèmes, elle ne se fait pas. Les TOM sont plus petits que les TESS, d'où la contagion de l'émotion, la fragilité à la contagion de l'émotion. Valérie, sensibilité face à la figure masculine, prédisposition à devenir envahie par les émotions. Peu d'habileté pour intégrer le savoir affectif avec du savoir cognitif en relation avec soi et avec l'autre. Puis un impact sur sa capacité d'empathie, si écart entre soi et autre. Dernière polarité. Polarité soit autre. Neurologiquement, voir son esprit et voir l'esprit d'un autre sont soutenus par les mêmes structures neuronales. Deux systèmes partagés pour la connaissance de soi et la connaissance des autres. Le fait de partager aide à l'acquisition, c'est une fonction phylogénétique, mais augmente la probabilité de confusion. Donc, on doit inhiber les comportements d'imitation pour séparer soi de l'autre. C'est en lien avec les structures qui soutiennent la mentalisation. C'est aussi une façon d'expliquer, à partir des neurosciences, le concept de l'identité. Si je veux être moi, je dois inhiber l'activation que l'autre met en moi. Je dois pouvoir le faire. Donc, les gens qui ont des problèmes limiques ont beaucoup de difficultés à inhiber ça. Hein, un exemple, par exemple, j'ai un groupe de clientes un matin. La première dit « je suis anxieuse ». La deuxième dit « je suis anxieuse ». Hein? La troisième, qu'est-ce qu'elle dit? Oui, mais elle dit en étant plus imagée. Elle dit, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai des tensions dans les épaules, dans mon mâchoire. Elle dit, maudit que je suis anxieuse. Oh. Permettons-nous un peu de douter de sa capacité de lire son interne. Hein, donc. Valérie a la difficulté à séparer ses représentations du thérapeute masculin des représentations d'elle-même en lien avec le masculin. Hein, donc, si on regarde au niveau de l'intervention, les différentes polarités qu'on vient de nommer, on pourrait dire que Valérie, au niveau affectif, on ferait monter ça plus haut. On ferait diminuer l'aspect cognitif. Au niveau du soi, on ferait augmenter ça par là, diminuer l'autre. On ferait augmenter l'implicite, diminuer l'explicite. Et beaucoup plus vers l'externe et beaucoup moins vers l'interne. Et là, la zone cible pour ramener la mentalisation, c'est d'essayer de diminuer un pôle ou chauffer un autre pôle quand il est absent. Et de travailler de cette manière-là pour l'aider à avancer à travers ça. Heureusement, on est en groupe hein, quand ça se passe. Donc, il y a une pause. On peut échanger les deux thérapeutes ensemble après. Ma thérapeute, avec un grand sourire, me dit « T'as une grosse journée en vue? » Donc, moi, j'ai dit oui. J'ai dit « Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? » Puis là, elle me rappelle que... parce que quand on vit une expérience comme ça, hein, bon, quelqu'un qui nous regarde avec mépris puis qui nous envoie suer, c'est pas une réaction intellectuelle. Il y a quelque chose qui se passe dans le ventre et on doit respirer puis prendre son gaz égal, comme on dit au Québec, hein, pour être capable de réguler ça. Hein, donc, la thérapeute me rappelle aussi l'histoire de Valérie. Valérie, c'est une jeune femme de 23 ans, mais elle a été battue par son père jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc, qu'il reste une petite fond de rancune quand on voit un homme. on peut imaginer. Dans le fond, ce qui s'est passé parce que dans le groupe, c'est que comme je faisais une intervention, je recevais un jab. Une intervention, je reçois un jab. Là, j'ai volontairement fait une intervention, mais il fait ça. Et là, tout le groupe s'est mis à rire. Valérie dit « Quoi? » Mais voyons, c'est pas si pire que ça. Et là, les gens ont commencé à lui parler. Ils ont dit, on dirait qu'Alain t'a fait quelque chose. Ah. Ben là, on a pu commencer à explorer. Évidemment, ça ne disparaît pas de façon magique. Hein? Donc, il y a des choses à travailler, mais c'est sûr qu'après, l'attitude de Valérie, elle a changé. On était capable d'en parler. Elle était capable de considérer un peu d'autres points de vue, puis peut-être l'expérience qu'elle me faisait vivre. Mais c'est des expériences à refaire. Aussitôt que ça va réchauffer au point de vue émotionnel entre moi et elle, il va y avoir déjà une autre réactivation. Donc, je vois que le temps avance et qu'on est pas mal serré. Donc, on avait prévu toute une série au niveau du spectre des interventions. On va vous les présenter rapidement à travers ces choses-là. Dites-vous que... comment je pourrais dire, donc? Le rapprochement PGRO, mentalisation, dans le fond, la mentalisation, c'est un outil qu'on doit ajouter à notre arsenal multimodal. On peut rester gestaltiste, PGRiste, psychothérapie du lien, et profiter de l'éclairage que Fonagy nous donne. La capacité à mentaliser n'est pas là pour tout le monde de façon égale. C'est comme bien des choses dans la société, il n'y a pas vraiment de justice par rapport à ça. Donc, veux-tu présenter? Ça va être la slide de terminaison.
Mais je ne sais pas si on aura le temps, là. Je préférerais présenter la posture.
Tu préférerais présenter la posture?
Oui, parce que la mentalisation de base, tout ça, c'est... Mais on va vous envoyer le texte après.
Écoutez, les dispositions du thérapeute, c'est ça? Oui. Le premier texte qu'on vous a envoyé, au niveau de la pagination, le transfert Word puis PDF, ça n'a pas bien marché, les diapos, on s'en excuse. Il était vraiment plus beau en Word qu'en PDF. On va vous renvoyer un texte suivi sans améliorer aussi, qui va mettre dans un discours plus littéraire ce qu'on vient de faire. Puis on va vous envoyer aussi la présentation PowerPoint complète. OK? Tu y vas avec la posture?
Mm-hmm.
Donc, on va terminer avec la posture.
Le sujet est tellement vaste qu'il faut le réduire. La posture mentalisante est une habileté qui permet au thérapeute de questionner continuellement ce qui se passe dans ses états internes et ceux de son patient, et qui permet d'expliquer ce qui se passe entre eux en relation avec ce qui arrive maintenant. C'est exactement la posture du gestalt thérapeute. Batman suggère de s'imaginer assis à côté de son patient, pas assis en face, pour mieux percevoir, écouter et observer sentiments et pensées. Le thérapeute va user de reflets en miroir marqué et contingent pour stabiliser l'attachement et faciliter la mentalisation. Il faut montrer notre curiosité active, montrer notre seeking. Jean-François il en parlait beaucoup hier. Et plus encore, il faut la marquer, cette curiosité, c'est-à-dire manifester explicitement notre besoin de comprendre les choses. Se pourrait-il que ? Comment se fait-il que ? Souligner la nécessité de comprendre ce qui n'est pas clair. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, ce n'est pas clair. Refuser les réponses toutes faites, les évidences. Et aussi être attentif au changement des états mentaux, c'est-à-dire les bris, hein, et manifester notre curiosité pour ces changements. On déplie et on partage nos intuitions, nos observations, nos hésitations. On mentalise à voix haute, au sein d'une incertitude non menaçante. Bevington propose d'adopter le style de l'inspecteur Colombo. On rembobine pour explorer les événements, les interactions qui ont généré les affects. On explore d'une manière explicitement naïve, marquée, un peu bête et lente. On souligne nos tentatives de clarification et d'élaboration. Ceci peut paraître un peu bête, mais j'aimerais vérifier avec vous. Peut-être que je me trompe, mais il semble que... En fait, ce que je ne comprends pas, c'est... Peut-être que je vous embête, mais j'ai envie d'explorer un peu. Je ne peux pas être certaine, mais... Et là, on voit la capacité à tenir du thérapeute. Hein, à son, c'est une insistance pour revenir à l'endroit où il y a eu un bris de mentalisation et explorer ça. Alors, il faut de la patience pour explorer les différentes perspectives aussi d'une situation. La capacité à mentaliser, on ne l'a peut-être pas dit assez, là, c'est resituer dans le contexte. C'est contextualisé. Les personnalités limites n'arrivent pas bien à contextualiser ce qui se passe. Alors, on y apporte des nuances, on clarifie. On montre comment ces informations peuvent être pertinentes pour donner sens aux événements. Il nous faut tenir et refuser les déflexions. Je crois que nous n'avons pas tout compris. Je vous demande encore un peu de patience. Je crois que nous devons continuer d'essayer de comprendre ce qui se passe. Il faut pouvoir se dégager pour tenir. Et bien sûr, il nous faut légitimer la perspective du client, valider son point de vue, même si nous ne sommes pas d'accord. Ne pas céder à la tentation de défendre notre position. Il doit être évident que pour le client, que le thérapeute a au moins compris son point de vue. On ancre aussi les nouvelles représentations quand on fait un moment de réparation, quand il y a enfin une mentalisation débutante. Et il faut l'ancrer dans le corps, parce que aujourd'hui, Batman et Fonagy parlent moins de mentalisation, parce que ça fait trop appel à l'intellectualisation, mais ils parlent d'affectivité mentalisante. Ils regrettent d'avoir employé ce mot mentalisation, parce que ça crée un peu de confusion pour ceux qui ne connaissent pas. Tandis que l'affectivité mentalisante, alors là, on ne peut plus oublier le ressenti et le corps. Et après un début de mentalisation, il faut vraiment ancrer ça dans le corps. Comment vous vous ressentez maintenant que vous avez compris ça? Comment vous vous sentez maintenant après avoir vu telle perspective? Et bien sûr, il faut reconnaître nos erreurs, Et l'humilité, surtout, c'est le summum de la mentalisation, c'est de savoir que nous ne savons pas ce qu'il y a dans l'esprit de l'autre, et même dans notre propre esprit.
Voilà. Merci.
Je vous invite, comme hier, à prendre quelques minutes pour échanger entre vous et puis on débutera les questions par la suite.
Bravo, merci beaucoup, ça a bien été. Bravo, vraiment, oui, c'est super intéressant. Oui, bravo. Oui, oui. Oui, oui. J'aurais aimé ça. Il y a du bon matériel qu'on n'a pas présenté. Sans ça, il aurait été fâché après moi. J'ai dit, on a arrêté. Sans ça, tu aurais été fâché après nous.
Ça fait peur en plus, hein?
Et, moi, les frisés, j'ai...
Oui, c'est dur, ça. Non, bravo. C'est super intéressant. La salle de
la ah oui?
Ah oui, vraiment super. Merci.
Ben oui, j'ai fait Ah, c'est mieux un petit verre de gin. On s'est pas trop pilé ses pieds. Pilé sur les pieds. Marcher sur les pieds, ça a été Moi, j'entendais bien. Donc, j'entendais avec les micros de la salle. Puis je pense que c'était correct.
On va vous inviter doucement à revenir avec vos questions. Tout le monde. Un petit moment d'attention. Je sais que vous avez sûrement beaucoup de choses à parler, à discuter entre vous, mais pour le bien de tous et pouvoir bien échanger avec les présentateurs, profiter de leur présence, on va passer à la période de questions. Et pour quelques personnes qui ont déjà mentionné concernant les documents qui ont été envoyés, il y a certains documents qui l'ont été et vous en recevrez d'autres d'ici début septembre, donc des présentations. Alors voilà. On peut débuter la paire de questions.
Bonjour.
Bonjour.
Merci. C'est un peu compliqué pour moi encore, hein, mais j'ai une question par rapport à l'exemple que tu citais avec Valérie.
Oui.
Je comprends que le groupe a permis... par rapport à ce que vous avez présenté sur les polarités, moi, ce que j'ai compris, c'est comment le monde interne ne lui, ne, enfin, envahit l'expérience externe.
Tout à fait.
Et la question que je me pose, c'est en individuel, j'ai entendu là dans ton explication que le groupe a été soutenant. La question que je me pose en individuel, c'est comment rentrer en contact avec ce monde interne et comment ne pas être intrusif.
Écoutez, c'est probablement tout l'art de pouvoir mentaliser avec ces gens-là. Comment je pourrais dire? Donc, ce que Claire disait sur les postures du thérapeute, c'est une posture d'authenticité, d'abord. Donc, c'est une posture vécue avec une personne. Par exemple, une autre cliente que j'ai en individuel, qui, elle, si je présente un point de vue un peu différent de celui qu'elle veut entendre, elle devient rapidement paranoïde et très fâchée après moi. Donc, je vous parle d'un processus actuel. Donc, c'est quelqu'un que les 4 dernières semaines ont été passées à vivre ça avec elle. Donc, j'ai dit, je vois bien que, en disant ça, de la manière dont je l'ai dit, votre émotion a changé. Est-ce que vous l'avez observé? Est-ce qu'on peut revenir? Est-ce qu'on peut en parler? Comment vous voyez mon intervention? Vous l'apercevez comment? Bon, et là, il y a des choses. Dans le fond, il faut réduire l'affect un peu, reconnaître que ça peut être nous qui l'a induit, puis construire avec elle des alternatives. En même temps, nous, on les voit en groupe et en individuel. On les voit un groupe par semaine, puis en individuel. Donc, la même situation avec ce qui se passe dans mon bureau, quand je commence à dire un peu un point de vue différent, va se passer en groupe quand je vais exprimer un point de vue différent sur ce qu'elle va présenter. Et là, il va y avoir une multiplication d'occasions de construire de la compréhension autour de ça. Ce n'est pas nécessairement réalisable en une entrevue. Des fois, moi, je dis, la meilleure attitude qu'on a à faire maintenant, c'est faire la tortue. On rentre les pattes, on rentre la tête. On reste là, par exemple. On continue à échanger avec elle. On se régule. C'est bien important. Celle dont je parle, elle vient avec 2 messages en même temps dans les yeux. Une très grande haine, puis en même temps, une espèce de peur indisible. Je suis pris dans ces 2 éléments-là. Donc, régule, on en parle en équipe. La notion d'équipe est extrêmement importante avec cette clientèle-là. C'est des gros self à manager. Quand je dis des gros selfs mal formés, mais des gros selfs quand même à manager. Puis on n'est pas trop de plusieurs esprits pour y réfléchir. Donc, puis on essaie de survivre. Donc, j'espère que ça répond à la question.
Je trouve très, très intéressant ce travail par rapport à la mentalisation. J'avais été très intéressée par l'article de Catherine Hamel dans le dernier livre de Gilles et Lynn. Je trouve peut-être un peu dommage que vous n'ayez pas mentionné les âges liés au développement. Si tu as parlé de 9 mois pour la position téléologique, mais après, comment l'équivalence psychique, le mode prétendu, c'est entre 2 et 3 ans, et qu'une fois que ces 2 modes sont intégrés, la capacité de mentalisation peut apparaître autour de 4 ans. Et par rapport au stade développemental, je trouve que c'est intéressant, quand on revient en champ 4, d'être conscient justement de je sais que la mentalisation n'est jamais acquise, je suis d'accord. Mais pour autant qu'elle commence à être possible autour de 4 ans, Il me semble que c'est intéressant de le voir comme ça aussi, par rapport aux stades développementaux.
Oui, on avait beaucoup, beaucoup d'informations.
Oui, oui,
on
en effet.
On a beaucoup donné celle-là, donc...
Ça me paraît utile.
Enfin, oui.
Et bon, par rapport au jeu, donc, j'avais posé la question hier, par rapport à la capacité de peut-être introduire du jeu dans le travail de thérapie, et peut-être en groupe. Comment on peut peut-être reprendre effectivement ce mode prétendu pour permettre à la personne de pouvoir l'intégrer en le reprenant dans le jeu, dans le cadre peut-être du groupe. Je ne sais pas. Comment c'est possible d'intégrer le play system?
L'intégration va se faire dans la dyade. Hein? Donc, ce n'est pas que la personne qui va rester dans un espace de jeu. C'est l'attention partagée. Souvent, c'est un terme qu'ils vont utiliser. Hein? Donc, l'attention qu'on va porter à ce qui est en train de se passer là. Parce que le but, c'est de jouer ensemble. Hein? Ce n'est pas de jouer tout seul dans son coin. Et le but, c'est de jouer ensemble à cette exploration-là. Donc, le mode prétendu, c'est un mode de pré-mentalisation. Et ce qu'on vit, c'est l'intégration de ça. Et ça nécessite l'engagement du thérapeute dans cet espace-là avec la personne. Et c'est, bon, il y a toutes sortes de possibilités qui peuvent s'ouvrir. Mais à partir du moment où on a réussi à calmer l'affect, on est ensemble en train de parler de ça, on peut en sortir et partager qu'on était dans cet espace-là. Donc, c'est un peu une manière de faire là, avec ça.
Comme le parent avec l'enfant.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Moi, c'est plutôt une illustration de quelqu'un qui me préoccupe énormément.
Je peux rapprocher le micro.
Oh, d'accord. Quelqu'un qui me préoccupe énormément. Et je suis toujours entre l'empathie à avoir pour le côté d'elle-même qu'elle vit comme monstrueux et son désir de sortir de ce monstre. Mais si on sort de ce monstre, enfin on essaye ensemble de sortir de ce monstre, le monstre est furieux. Elle devient avec des pensées paranoïdes et personne ne veut la voir comme elle est. Et voilà, je dis humblement, en fait, ma difficulté. Hein. En disant ça, je dis, comme c'est difficile, cet accès à pouvoir passer la personne entière. Voilà.
Vous voyez, c'est quand, dans le fond, on souhaiterait que la personne puisse développer un autre point de vue. Hein, donc, et là, il y a une proximité mentale qui devient possiblement intolérable à ce moment-là. Hein, donc, et là, c'est de trouver une façon de micro-graduer cette proximité mentale-là pour que la personne ne vive pas ça comme un envahissement de son self. Mais c'est extrêmement délicat. Il faut être extrêmement patient, surtout quand les gens ont été le porte de façon très organique, quasiment dans leur code génétique. Hein, donc, c'est beaucoup la patience qui, à mon avis, va permettre ça. Donc,
Bien, tout d'abord, merci, un grand merci à tous les deux pour votre exposé. J'ai passé un grand moment de plaisir grâce à vous sur un sujet que j'affectionne particulièrement. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais en tous les cas, c'est à toi que je m'adresse, Claire, suite à une discussion qu'on a eue toutes les deux sur la mentalisation, où tu semblais me dire que tu amorçais une réflexion sur... l'apport que pouvait, l'apport de la somatique dans l'approche des situations de trauma lorsque le client est en mode prémentalisant et que la somatique pourrait désamorcer des systèmes automatique de façon plus efficace que ne pourrait le faire la PGRO et notre travail en PGRO. Enfin, si j'ai bien compris. Bon, alors, justement, alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris, donc je voudrais que tu puisses nous en parler et qu'éventuellement, même si dans la salle, il y a des gens qui peuvent nous éclairer là-dessus ou avoir l'avis d'autres personnes. Voilà.
C'est une réflexion qui est en cours, donc je ne peux pas encore, je peux rien affirmer. Mais ce que je constatais, c'est que même quand on fait... je suis débutante en mentalisation, en attention sur la mentalisation, hein, donc je ne peux pas encore tirer des conclusions. Mais même quand on fait des moments de mentalisation, il y a quand même des automatismes qui reviennent. Donc je pense qu'il y a des circuits neurologiques qui sont comme des autoroutes au niveau de la mémoire implicite procédurale, la mémoire non consciente. Et donc, je me demande si... il ne faudrait pas désautomatiser ces circuits-là. Mais je ne sais pas comment. Et c'est pour ça que j'ai cherché un peu en somatic experiencing, parce que le somatic experiencing, c'est une approche sur les traumas qui rassemble tous les composants de l'expérience. Et donc, mais qui part du corps, qui met plus l'accent sur le soma, sur le physiologique, plus que sur l'intégration affect et pensée, hein, comme le fait la mentalisation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui pourraient en dire plus.
Moi, je suis en termes de mentalisation complètement débutante. Oui, je parle bien dans le micro. Moi, je vais parler simplement en tant que clinicienne de la somatic experiencing et comment aussi je réfléchis à comment on peut associer, approfondir la PGRO, vraiment l'expérience que j'ai de la somatic experiencing à ce jour dans le travail personnel que nous avons fait. Et le travail avec les clients, c'est comment ça approfondit la PGRO, c'est-à-dire comme si, et la gestalt-thérapie, c'est-à-dire le processus de contact, nous sommes vraiment dans le champ du côté du pré-contact, ça nous aide, ça nous soutient à ralentir ce fameux ralentissement qui va nous permettre de nous dégager, la question sur le dégagement, c'est comment se dégager de ces affects intolérables, comment avoir la patience, comment entamer quelque chose du côté de l'échange plus herméneutique. Alors, en même temps, en effet, ça soutient ce travail du pré-contact et donc le désamorçage, tout va bien. Il y a tellement de choses, ça nous prend tellement. C'est comment nous on peut se dégager. C'est en travaillant sur nous-mêmes, sur ce qui se passe dans notre ventre, sur comment on peut vraiment trouver toutes nos ressources physiques dans les souvenirs, tout ce qui va nous faire du bien pour nous créer un espace de sécurité, d'intégrité pour nous-mêmes. Et donc c'est ça que la somatic experiencing amène dans le travail qu'elle nous fait faire sur nos propres traumatismes. Parce que nous disions au début de la conférence combien il fallait que nous travaillions avec le corps. Et c'est vrai qu'on en a peu parlé dans le congrès, mais c'est un domaine, enfin, un thème tellement vaste aussi. Mais en tout cas, ça demande un travail sur soi-même. Et donc je parlais du pré-contact. Et à partir du moment où, et c'est pas possible tout de suite aussi d'aller vers ça avec les clients, parce que c'est ça aussi le dilemme que nous avons, c'est qu'à la fois ça désautomatise, mais en même temps on peut
confrontée au corps amène à la question de, voilà, le risque de l'intrusion. C'est un travail d'équilibriste au début. Comment j'installe la sécurité alors même que la sécurité passe par la dimension corporelle qui est tellement menacée, le sentiment d'intégrer la personne est en morceaux, elle est dissociée. Et évidemment, comment on peut amener cette sécurité? Et alors, ma conviction aujourd'hui, c'est que c'est vraiment en nous sécurisant nous-mêmes.
J'ajouterais quelque chose par rapport à ça. Les gens que je fais partager mon expérience, hein, dans le fond, ça fait quand même presque 20 ans que je suis avec les états limites sévères. Hein, donc, ces gens-là n'ont pas tous accès à leur corps. Hein, parce que leur corps, c'est un mauvais souvenir incarné, dû à des multiples abus, des violences et autres choses. Et des fois, leur faire contacter leur corps comme moyen de régulation, ça va créer des retraumatisations. Hein, donc, même chose avec les techniques de mindfulness, par exemple. Hein, donc, simplement se centrer sur la respiration, pour certaines personnes, c'est intolérable. Donc, il y a des moyens plus concrets, comme la marche consciente. Donc, il y a toute une gradation à tenir en compte. Évidemment, le corps est extrêmement important dans la régulation émotionnelle. Mais il y a certains niveaux de troubles que parfois, c'est mieux qu'ils l'oublient. Parce qu'à partir du moment où on réchauffe le corps, il rentre dans une période de cauchemar plus ou moins longue et il faut s'assurer de la capacité de la personne de porter ça. Et dans des suivis une fois semaine, c'est pas suffisant. Donc, il faut voir les moyens qu'on a pour aller au niveau de profondeur qu'on veut aller. Hein, parce qu'on pourrait avoir l'idée que c'est bien pour l'autre personne, mais c'est aussi mettre un alien self dans la tête de quelqu'un, ça. Ou, je dirais même plus, mettre un alien self dans l'expérience de quelqu'un. Ce qui est pas mal envahissant.
On va devoir bientôt arrêter la pause.
Oui, moi j'ai juste un petit ajout par rapport à ce que tu dis, Alain.
Oui.
Parce que j'ai vécu l'expérience avec les deux collègues. Parce qu'on fait de la formation entre nous, donc avec Claire et avec toi aussi. Hein. Et donc, pour avoir vécu un moment expérientiel, justement, ce que j'ai trouvé remarquable dans l'apport de la somatique expérientielle telle qu'elles me l'ont fait vivre, c'est que justement, ce n'était pas une intrusion dans le corps, c'est que c'était juste très lentement me faire contacter quelle était ma ressource efficace à ce moment-là. C'était une très petite ressource. Mais le fait de la sentir, ça me soutenait. Et du coup, il n'y avait pas d'intrusion. C'était moi qui étais amené, si tu veux, à ressentir du côté de la ressource. Tu vois, du côté de la ressource.
Mais j'imagine
et
que...
ça, c'est très, 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 oui. très doux.
J'imagine que tu as une structure assez solide aussi.
Ben, c'est Alain. À ce moment-là, dans ce que je vivais à ce moment-là, c'est pas si sûr. Tu vois? Mais à ce moment-là, c'était une ressource. C'était très doux comme
travail. Écoutez, je veux pas lancer un débat par rapport à ça. Hein. Je veux juste dire.
Non.
Je vais terminer parce qu'ils veulent qu'on s'en aille, là.
Mais... Non, on veut pas que vous en ayez.
Je vais terminer en disant une phrase de Fonagy que j'ai bien aimée, entre autres. Hein, c'est. Ne jamais surestimer les capacités de notre client. Les capacités de notre client. Ne jamais surestimer. Toujours avoir à l'esprit... Sûr. Toujours avoir à l'esprit les difficultés de ces gens-là. Parce que ce n'est pas des difficultés rhétoriques, théoriques. C'est des difficultés incarnées. Et... quand on dépasse la limite avec un état limite, c'est pas notre tête qui le sait. On le sait dans tout notre corps. Mais eux, imaginez comment eux le ressentent. Il faut être prudent. Je pense qu'on veuille que ces gens-là développent des ressources puis reprendre un contact plus paisible avec eux, c'est une très bonne intention.
Puis en même temps, essayons d'être avec eux et de ne pas leur demander quelque chose qu'ils ne peuvent pas donner. Hein, c'est vraiment plus une question de... soyons exigeants avec ceux qui sont capables, mais soyons généreux avec ceux qui ne le sont pas. Soyons ouverts, soyons patients. C'est mon expérience. J'aurais aimé bien tous les guérir, là.